Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche, je suis tout au théâtre de l'Alliance Française. Pour un masque et la plume consacré à l'actualité estivale du cinéma avec ma chère Charlotte Lipaska de Vogue, avec Eric Nohoff du Figaro, Nicolas Chalère de l'Obs, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série. On parle ce soir de OSS 117 version Nicolas Bedos, de Kaamelott d'Alexandre Astier, de Profession du Père, de Jean-Pierre Améris, de Pour l'éternité de Roy Anderson, du Soupir des vagues de Koji Fukada et d'un, à mon goût en tout cas, film exceptionnel qui est La loi de Téhéran de Saïd Roustaï. Dans le courrier de la semaine, contrairement aux critiques, on peut dire unanimes, du Masque et la Plume, les auditeurs n'ont guère goûté No Man Land de Chloé Zhao qui était sorti au mois de juin. No Man Land, nous écrit Michael Moretti de Lyon, est un sniff movie, un Ken Loach sur une Amérique alternative de carte postale. Si Frances McDormand joue bien, le décalage avec les bons acteurs amateurs est patent sur un scénario tenant sur un confetti. Jérôme Duvivier, également de Lyon, juge que No Man Land ne parvient pas à captiver. Chloé Zhao a d'évidence un style, mais elle ne réussit qu'à moitié son pari. Et puis la musique est trop sirupeuse et ça affadit le film. No Man Land, demande Mathieu Dahan, mérite-t-il vraiment la cascade de louanges et de prix dont il a bénéficié? La gravité du sujet aurait justifié un traitement radical, dans un sens contemplatif à la Malick ou l'autre réaliste à la Dardenne. Au lieu de ça, Chloé Zhao nous livre un film édulcoré, sans saveur et parfois complaisant, une déception. Mais pour Arnaud Sanquer, Chloé Zhao continue à filmer les oubliés, les abîmés. Elle le fait toujours avec grâce, mais de manière peut-être moins subtil, plus consensuel que dans The Rider. Un bon film, mais pas beaucoup plus. Vous voyez, les auditeurs sont assez sévères pour ce film qu'on avait aimé à propos du discours de Laurent Tirard. Christelle Bisio parle d'une réussite désagréable à regarder. J'aime beaucoup l'expression. Valentine Pirot juge qu'on passe quand même un bon moment, même si on rit encore plus en lisant le livre magistral de Fab Caro, dont le génie s'exprime certes mieux sur le papier que sur l'écran. Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence n'a pas aimé que le masque parle de Jacques Tati à propos des deux Alfred de Bruno Podalydès. Sur le même sujet, Tati aurait réalisé un chef-d'œuvre et là, on a droit à des gags consternants, des répliques navrantes et sans aucune finesse. Ils sont parfois un peu durs, nos auditeurs. Allez, on commence à la demande de Xavier avec Kaamelott, premier volet, qui est sorti le 21 juillet. Le film d'Alexandre Astier, dont je rappelle qu'il est à la fois le créateur, le producteur, le scénariste, l'interprète, le compositeur de la musique. Il n'est pas l'ouvreuse, hein. Tiré évidemment de la série télé diffusée avec le succès qu'on sait sur M6 entre 2005 et 2009. Un premier volet qui sera donc suivi de deux autres, cher Xavier, où Alexandre Astier tient toujours le rôle du roi Arthur, entouré notamment de Sting, je dis bien de Sting, mais également Géraldine Nakache, Audrey Fleurot, Antoine Decaune, Alain Chabat, Christian Clavier, Guillaume Gallienne, François Morel, il y a tout France Inter, hein, Clovis Cornillac, cette version décalée de la légende du roi Arthur et de la table ronde, où on parle moderne et pas féodal, et dont la réplique culte est devenue « c'est pas faux ». Vous a-t-elle amusé, Xavier?
Alors, on parle peut-être moderne, mais on pense très vieux, très rance, très un autre monde. Alors, quand tu dis qu'il fait pas l'ouvreuse, si, il fait l'ouvreuse, parce qu'il est obligé quand même de courir tous les plateaux. Et je pense qu'à part habiter sur Mars, personne n'a échappé quand même à un moment ou un autre à Alexandre Astier qui dit « Non, non, mais allez-y, même si vous ne connaissez pas la série, vous allez tout comprendre et vous allez vous marrer. Vous n'allez rien comprendre. » Quant à se marrer, bon, ça c'est plus subjectif de toute façon. Moi, la série, déjà, j'étais pas client. C'est-à-dire que j'ai regardé des épisodes et je voyais arriver le générique, je me dis, il y avait une chute, il y avait un gag, il y avait une situation. C'est exactement les questions que je me suis posées pendant 2 heures. Alors là, elles deviennent interminables. Parce que transposer la vignette au début de 1-2 minutes, ils ont fait plus long pour la 5e saison, mais en 2 heures, sans changer ce principe extrêmement répétitif, un peu appuyé de non-sens, de burlesque vocal, de gags comme ça absurdes, qui consistent à s'interrompre, à répéter, à redire, à répéter, à redire, redire, avec un air comme ça de plus en plus ébahi, ça ne passe pas du tout, mais pas du tout pour moi.
Tu n'as pas du tout ri.
La frontière du grand écran. À aucun moment. On est abasourdi par le fric qui est dépensé, mais qui est inversement proportionnellement dépensé en termes de non-spectacle, c'est-à-dire que c'est pété de thunes. On a l'attaque des Ouïghours, en tout cas d'une ethnie colorée, 3 fois, 4 fois, 5 fois.
Non, mais il ne faut pas chercher la vraie, l'histoire réelle.
Oui, les Visigoths, oui, sans doute. Mais alors, ils arrivent avec beaucoup de décors, ils arrivent avec des catapultes, des choses extrêmement compliquées qu'ils mettent autour du château, puis ils repartent. Puis ils vont dans un autre château, ils refont la même chose, et puis ils repartent. Alors on aura quand même droit à une attaque à la fin au bout de 2 heures. Ça ne fonctionne absolument pas, jamais. Ça n'est jamais cinématographique, ça n'est jamais drôle, ça n'est jamais rythmé, ça n'est jamais aussi absurde qu'il l'imagine ou qu'il l'espère. Et surtout, quid de la représentation des femmes, et c'est pour ça que je disais que ça parlait moderne, mais ça pensait très vieux, il n'y en a pas une qui échappe aux clichés, aux stéréotypes de pute, moche, mécréante, traîtresse, salope. Voilà. C'est en gros la quintessence de la représentation féminine. Voilà. Dans. Dis-moi si j'ai faux.
Comme les personnages masculins qui sont tous pleutres.
Je voudrais que Charlotte.
Stupide, lâche.
S'exprime.
Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Non, je suis désolé. En plus.
Un procès d'intention un peu.
Je voudrais que Charlotte.
C'est 100% pour les femmes. Il y a quand même quelques personnages masculins qui sont un peu moins cons que les autres.
Tu étais choquée, Charlotte?
Il n'y en a aucun, Xavier. Le seul personnage qui n'est pas abruti, c'est Arthur, joué par Astier lui-même. C'est-à-dire, c'est un concours.
Il n'y en a même pas autant chez les femmes.
Qui sera plus abruti que les autres, quant effectivement à la vision de la femme, alors moi je me suis même pas posé ces questions-là, tellement j'étais plombée dans un ennui abyssal.
Oui, parce que c'est pas un film de Céline Sciamma du tout.
Non,
hein.
Voilà, je pense même pas qu'il y ait pensé 2 secondes, on est très très loin de ça. Et on est très très loin aussi.
Non, Claudula, quand même.
Non, mais on est très loin aussi de Terry Gilliam, qui est clairement quand même une sorte de référence pour Astier. Et là, on est juste à 10 km, quoi. Effectivement, comme le dit Xavier, c'est interminable. C'est une succession de scénettes ou de mini-sketchs mis bout à bout les uns à la suite des autres, mais il y a un vrai problème de montage ou de construction de scénario, j'en sais rien, qui fait que rien n'est fluide, mais absolument rien, et l'humour, il n'y a rien de moins universel que l'humour, ça n'est pas, moi effectivement je suis comme Xavier, ça me laisse mais alors complètement de marbre, je n'ai pas ri une seule fois et j'ai même trouvé assez désagréable d'assister à une engueulade pendant 2 heures, parce qu'en fait toutes les scènes, ils ne font que s'engueuler. Il crie, c'est hyper criard, hyper bavard. Alors les insultes,
pas toujours,
c'est quand même,
temps, ils se moquent les uns des autres.
Vieux
aussi,
lézard moisi, bon bah voilà, moi ça me fait pas tellement rire. Bon, après je mets quand même à son crédit des costumes assez délirants. C'est sûr qu'il a inventé un monde et esthétiquement il y a quand même une sorte d'ambition que je trouve pas particulièrement jolie. Par ailleurs, c'est plutôt laid. Mais bon, il y a une tentative. Et puis Sting, alors il fait un coup énorme avec Sting. Mais enfin, Sting est acteur, comme moi je suis patineuse artistique, quoi. Ça ne rime à rien. Il est mauvais comme un cochon. Enfin non, moi ça a été vraiment, vraiment un tunnel d'ennui interminable.
Est-ce que tu as ri, Eric ?
Quand je suis sorti, oui, parce que j'ai respiré enfin, mais c'est une véritable catastrophe industrielle, un désastre absolu. Ça fait partie des plus mauvais films de l'histoire du cinéma. Avec
vous n'êtes pas un peu excessif les autres.
Et Sa Majesté Minor, on se pince pendant 2 heures en regardant ce truc-là. Moi, je ne connais pas la série, mais on n'y comprend absolument rien. Le scénario est tellement mal foutu que toutes les 2 minutes, en bas de l'écran, il doit y avoir une petite phrase disant « Bretagne, île de Thanet, royaume de l'ogre », sinon on est complètement perdu. Xavier a raison, le tic du truc, c'est pour ça que ça dure 2 heures d'ailleurs, c'est que dès que quelqu'un prononce une phrase, tout l'entourage la répète et celui qui l'a dite la redit à la fin. Et si c'est censé être marrant, moi je trouve qu'ils jouent tous comme des cochons, c'est pas drôle du tout. Il y a un fric fou sur l'écran.
Ils ont parfois des gueules de cochons, ça c'est vrai.
Le pauvre Sting, là, avec son accent à couper au couteau, mais qui joue mais comme un fish and chips là-dedans. Là, avec
la houppette de teinte. Christian Clavier qui dialogue avec Christian Clavier, c'est quand même...
Mais c'est même pas drôle, Christian Clavier. Il est dans Les Visiteurs.
C'est absolument sinistre. Les costumes, tu es bien gentil, Charlotte. Mais alors, Lancelot du Lac, on a l'impression qu'il a dévalisé la cave d'une vieille boutique de Thierry Mugler et enfilé une combinaison en sky gris avec des épaulettes.
J'essayais quand même de sauver quelque chose.
Il y a le malheureux Gallienne qui s'est fait la tête de Francis Lalanne au début. Il disparaît, on n'entend plus parler de lui, on ne sait pas pourquoi. Il y a une fausse.
C'est le principe, ça.
Il y a une fausse Catherine Froh qui joue Guenièvre, mais c'est une espèce de ragougnasse. Assez contente d'elle-même. Oui. Et puis il y a un truc dramatique, c'est qu'à la fin, c'est volet 1. On sait qu'il va y avoir 2 suites. Ben ça, ce sera sans moi. J'enverrai Xavier.
Ils l'ont pas tourné.
Non, mais à mon avis,
les suites.
on va attendre la fin de l'été pour avoir les chiffres, mais ils vont être très bons, je pense. Nicolas.
Bah non, mais moi, après un tel massacre, j'ai un peu envie de venir un peu à la
rescousse. Défends Kaamelott, Nicolas.
Bah, un peu mollement, parce que moi, je suis un peu comme mes camarades. Je ne connais pas du tout la série. Je suis tombé une ou deux fois à la télé et j'avoue que ça m'avait pas vraiment convaincu. Et là, j'y suis allé un peu comme les couverts de terre inconnues. Et j'ai, alors, je vais pas vous dire que j'ai été emporté par le souffle épique du film et que je trouvais ça formidable. Mais je trouve qu'il y a une ambition dans le film. Il y a des moments qui m'ont fait rire parce qu'il y a quand même un sens du rythme et du dialogue et des comédiens. Les comédiens sont quand même, il y a le plaisir, j'allais dire presque plus théâtral de voir des comédiens dire des dialogues quand même parfois assez drôles. Et voilà, il y a
ça. Vas-y, si tu en as une mémoire, parce que nous allons bien pas.
Faut vraiment que je regarde mes notes. Non, mais il y a vraiment
j'ai une gueule d'atmosphère.
Il y a même un petit côté Astérix, un moment, dans l'humour un peu le côté anachronique et des anachronismes. Il y a quand même un esprit, parfois, moi, je trouve, qui est quand même assez réjouissant. Après, le vrai problème du film, c'est il y a presque deux ambitions qui se cognent. C'est-à-dire que la série était vraiment basée sur des espèces de huis clos avec des personnages qui discutent et qui s'engueulent et qui tournent en rond autour du même sujet. Là, il a gardé cet esprit-là, mais en même temps, il essaie d'en faire une, c'est un peu Audiard qui s'est perdu dans le pays du Mordor, quoi. Il essaie de faire rencontrer ça avec une sorte de fresque un peu épique, de retrouver l'esprit de la légende de autour d'Arthur et tout ça, et de donner l'idée de faire une franchise dans l'esprit du Seigneur des Anneaux, ou on va dire de le Game of Thrones. Et c'est là où vraiment le film, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que c'est pas un assez grand metteur en scène pour donner un souffle. Et il y a vraiment deux ambitions comme ça qui marchent pas du tout. Voilà. Donc.
Bon, au moins, t'auras essayé. Voilà. Je me demande même si dans le deuxième volet, puisque il est très, très France Inter, je veux dire, entre François Morel et Antoine Decaune, je pense que Nicolas Scheller ferait bonne figure. Il a un physique assez.
Il a un physique
assez Kaamelott.
C'est la raison de fond de ma défense. vous m'avez démasqué.
Non, peut-être que s'il y a une crémation, on proposera le rôle et que ce sera.
Voilà, et je trouve qu'il y a une ambition visuelle, voilà, de esthétique, je trouve qu'il manque un peu au cinéma et aux comédies françaises, et là, il faut le reconnaître. Et puis, encore une fois, je répète, Sting et Christian Clavier qui jouent ensemble, je trouve ça, on voit pas ça ailleurs, quoi.
C'est donc Kaamelott d'Alexandre Astier. Et revoici ce bon vieux OSS 117 après le Caire, Nid d'espions, c'était en 2006, et Rio ne répond plus, c'était en 2009, de Michel Hazanavicius. C'est à Nicolas Bedos que la Gaumont a confié le troisième volet d'OSS 117, incarné par Jean Dujardin. Et dans OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, c'est le titre exact, qui se déroule en 81, au moment où Giscard laisse son trône élyséen à Mitterrand, notre héros, toujours aussi avantageux, toujours aussi saugrenu, il a quand même pris un sacré coup de vieux. D'ailleurs, on charge Hubert, bonisseur de la Batte, de se consacrer désormais à la numérisation des archives de la DGSE. En somme, l'agent secret devient un agent de bureau. Ça, c'est au début du film. Et puis surtout, il y a ces jeunes loups qui arrivent sur le marché de l'espionnage, parmi lesquels OSS 1001, qui n'est autre que Pierre Ninet. Mais comme OSS 1001 a disparu en mission en Afrique, OSS 117 est appelé à la rescousse et reprend du service à la demande de son patron, qui est incarné par Vladimir Yordanov, dont je le rappelle ou le précise, c'est le dernier rôle, puisqu'il est mort le 6 octobre 2020. Voici donc Jean Dujardin en Afrique de l'Est. Dans l'avion, d'ailleurs, il lit bien sûr Tintin au Congo, il fallait s'y attendre, où il doit aider un dirigeant forcément corrompu à mater des rebelles, ce qui nous vaut évidemment en rafale des blagues potaches et racistes d'un autre temps, et une image de la France-Afrique, elle aussi totalement révolue, et c'est ce qu'a voulu, évidemment, pour s'en moquer, démontrer Bedos dans ce troisième volet de OSS 117, Charlotte.
Moi, j'ai vraiment marché. D'abord, j'ai retrouvé quand même l'esprit. Alors, pas forcément en termes de mise en scène, mais sur le scénario, c'est toujours Jean-François Alain qui avait écrit les deux précédents d'Hazanavicius. Et clairement, il n'a pas changé de plume. On retrouve tout ce qui fait le sel de ce personnage, qui est quand même à la fois charmant, mais un tantinet abruti, avec ce côté extrêmement...
Pas abruti, vraiment saugrenu.
Enfin... Oui, saugrenu, ou un peu, en tout cas, décalé, on va dire, et très, très vieille France, extrêmement patriotique, plutôt ringard avec les femmes et tout ça. Donc, le personnage le retrouve.
Plutôt est un euphémisme.
Voilà, exactement, mais je voudrais pas trop en dévoiler. Et je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est que là, en associant un nouvel jeune agent, donc joué par Pierre Ninet, on part dans du buddy movies. Alors évidemment, on pense au compère ou à la chèvre. Sauf que habituellement.
Sauf que c'est pas la chèvre, c'est les crocodiles là en l'occurrence.
Oui, et puis souvent, ce sont des duos qui fonctionnent sur une opposition de force physique. C'est-à-dire, il y a toujours un gros balèze pour mettre des bourre-pifs et un petit pleutre timide ou maladroit. Et là, pas du tout. C'est-à-dire que physiquement, les deux se valent, mais l'opposition, évidemment, elle est sur la génération, sur l'âge. OSS 117 est assez vieillissant. Il a même une petite virilité atteinte. Alors qu'arrive ce jeune loup, on dirait Renault dans les années 80, c'est plutôt rigolo, et que ça va lui mettre un petit coup à son ego et son orgueil. Et je trouve que le tandem fonctionne très très bien. Et au-delà des dialogues qui, là, pour le coup, moi, me font assez rire, je trouve qu'il y a quelque chose dans les silences et les regards qui se jouent entre eux que je trouve extrêmement drôle. C'est-à-dire que quand OSS 117 dit quelque chose, Pierre Ninet, le tout jeune, le regarde, il lui a dit une information et essaye de voir s'il a compris ou pas, tout en se disant mais il est con ou il est con. Et donc bref, il y a tout un jeu entre deux que je trouve vraiment qui marche bien. Et puis il y a une sorte de direction artistique du film assez classieuse en termes de reconstitution d'époque des années 80, les décors.
Un usage très important de la Renault 12.
Absolument, mais les décors, les costumes, il y a des beaux paysages effectivement d'Afrique. Enfin, c'est un divertissement. Là, on est encore en plein été pendant les vacances que je recommande. Demande bien volontiers.
Eric,
bah, c'est le film le plus attendu de l'année. Hein. Tous les gamins piaffent devant les affiches et ils vont pas être déçus. Hein. Charlotte a raison, c'est à l'image du titre. Hein. Tout l'humour est là, alerte rouge en Afrique noire. C'est comme dans les deux précédents. En un petit peu plus long, c'est un petit peu longuet par moment.
Ça dure deux heures.
Pour une comédie, c'est trop. Ouais. Déjà, pour un film normal, c'est trop, mais pour une comédie, c'est trop. Mais du jardin, on le sent ravi de renfiler le costume de cet espion ridicule.
Et finalement, il n'est pas si loin du Nicolas Sarkozy qu'il incarne chez Anne Fontaine.
Il m'a fait penser plutôt à Chirac, moi, physiquement, là-dedans. Et je pense qu'il devrait jouer Chirac dans un prochain film. Et Ninet, lui, peroxydé dans son jean moulant, son blouson en satin, lui tient vaguement tête, parce que le personnage est un peu traité par dessus la jambe.
Ça ne durera pas, mais on ne raconte pas pourquoi.
C'est un film qui repose entièrement, comme les précédents, sur les dialogues, sur le contretemps, sur le décalage, et c'est par moments filmé un peu comme les publicités pour les chocolats chez l'ambassadeur, les réceptions clinquantes avec les dorures partout, et on apprend un tas de trucs aussi, c'est que pour dompter une panthère, faut lui parler en allemand, et apparemment ça a l'air vrai. Il y a plein d'histoires marrantes, il y a pas mal de rythmes, et Dujardin se sent vraiment à l'aise. Bedos, lui, il fait le boulot, et ce Jean-François Alain, c'est quand même un des scénaristes comiques les plus doués du paysage français. Ça, il y a les scènes avec la directrice de l'hôtel que drague Dujardin.
Vous n'en parlez pas, il y a aussi beaucoup, beaucoup de blagues racistes pour dénoncer le racisme.
Oui, mais
c'est quand même
le fil tendu du film. Le président dictateur qui chante Annie et aime les sucettes, moi je trouve ça tordant, ça revient dans le film. Non, mais parce qu'ils osent quand même ça beaucoup revient. De trucs, et ça c'est assez agréable à voir.
Nicolas.
Ben non, mais alors là, pour le coup, je veux bien. Effectivement, Jean-François Alain est un des grands scénaristes de comédie ici. Mais le problème, c'est que Jean-François Alain, il fait, et surtout sur OSS, il fait des scénarios qui sont de la TNT, quoi. Ça doit se manier avec une finesse, parce que c'est un humour justement très, on va dire, pour aller vite, politiquement incorrect, mais en tout cas qui rit beaucoup de l'époque et qui se moque justement de la bien-pensance. Et là, comme ils y vont à fond, à travers le personnage d'OSS, sur les blagues racistes et sur le racisme atavique presque du personnage, mais dont il lutte contre ça, mais du coup, il en fait encore plus, et c'est terrible.
Mais l'humour vient de là. C'est qu'il essaye de cacher son racisme.
Mais il fait des blagues racistes sans se rendre compte qu'il en fait.
C'est formidable. Mais sauf que ça nécessite un recul et une distance de mise en scène qui, pour moi, manque complètement dans ce film. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qu'avait réussi Azanavicius, c'était d'avoir amené une forme de distance par rapport au personnage et par rapport à ce qui se passait. Là, il en fait carrément un héros, et un héros où on sent qu'il est en empathie avec
lui. Non, il n'en fait pas un héros, justement.
Parce qu'il s'en moque. Mais c'est vraiment une question de timing et de finesse de trait. C'est-à-dire que, reprenez la scène quand il couche avec Natasha Lidinger.
Quand il essaye de coucher.
Il essaye, ça ne marche pas. Il fait un long travelling sur ses jambes qui monte, et là, ça ne marche pas. Il a effectivement une panne sexuelle. Et il recommence, et la scène dure des plombes, et il recommence, et il s'enferme dans le truc. Bedos, son problème, c'est qu'il veut toujours trop en faire. Là, on sent qu'il veut faire aussi beaucoup, il est comme référence Bebel à l'époque des années 80, Le Professionnel, tous ces films-là, mais les James Bond des années 80. Et je pense qu'il a une, il a une forme même d'empathie et de, il veut faire de OSS une sorte d'enfant, de grand enfant nostalgique. Il, au moment où il envoie des images de Casimir de toute cette époque-là, et il y a un regard sur OSS que je trouve qui est, et on sent aussi sa détestation du personnage de que Jouni Né, quoi. Il y a comme ça quelque chose qui se, presque d'inconscient dans le film qui se révèle d'un humour un peu lourdingue.
Mais je pense qu'il y a aussi un cahier des charges que la Gaumont lui
voilà,
a donné.
Voilà, et je pense qu'il y a
c'est surproduit. C'est pas le Nicolas Bedos de son
dernier
film.
C'est surproduit, il y a trop d'argent, et
oui,
du coup, il y a...
En ce sens, est-ce que c'est si différent de ce que faisait Azanavicius?
Parce que c'était beaucoup plus à l'os, c'était beaucoup plus, là, le film dure beaucoup plus longtemps, et il y avait, et là, je trouve qu'à des moments, au niveau de l'humour, c'est limite qu'est-ce que OSS a fait au bon Dieu, quoi. Il y a vraiment un truc. Ah, si, si, je trouve. Alors que vraiment, il y a des idées de scénario et des répliques qui sont formidables.
Plein de films.
Pas à ce point. Le vrai problème du film, c'est son effet de répétition, c'est-à-dire que les gags racistes pour dénoncer le racisme, sexistes pour dénoncer le sexisme, homophobe pour dénoncer l'homophobie, elles font rire une première fois, elles sont répliquées à l'identique une deuxième fois, et à la quatrième fois, on se dit
il en fait trop.
Coco, je l'ai déjà entendu, dans le même état. La scène que tu cites d'ailleurs avec justesse de Natasha Linninger, qui se passe mal, c'est pas tant le travelling sur les jambes, elle a une crampe. C'est-à-dire qu'elle s'emmerde. Et plutôt que de faire éprouver par un dialogue le sentiment d'ennui de cette jeune femme sur lequel ce monsieur essaye tant bien que mal de retrouver sa virilité, il y a juste un geste où elle se masse un peu la cuisse parce que visiblement, elle tient la position depuis trop longtemps. Très bonne scène. Parfait. On la répète une heure et demie plus tard avec une autre femme. Et là, il y a un moment où on se dit c'est quand même dommage d'écrire l'évolution d'un personnage parce qu'il va peu à peu quand même s'ouvrir aux mutations du monde, aux mutations sociétales. Il finira par s'habiller comme Pierre Niney, donc il va un tout petit peu quand même acquérir quelques réflexes qui sont un peu moins racistes, un peu moins homophobes et un peu moins sexistes. Mais le film, lui, en revanche, dans l'écriture, est constamment systématique et répétitif, et c'est dommage. Il y a néanmoins un gag, et je terminerai là-dessus, qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à force de ne pas vouloir être raciste, comme tu l'as très bien dit, il lit les dossiers dans l'avion, c'est-à-dire Tintin au Congo, je veux dire, quand même, sur la connaissance du domaine, c'est il y a un groom à l'hôtel où il arrive qui joue là, ça c'est très très drôle et qui lui fait porter constamment ses valises au nom de la mauvaise conscience du blanc par rapport à l'Afrique. Ouais. Et ça, rien que pour ça, je trouve que ça a de la gueule.
Oh, même deux heures.
OSS.
Mais on est d'accord, mais Kaamelott, deux heures.
Alerte rouge en Afrique noire. Et c'est le film de Nicolas Bedos, Profession du père, film de Jean-Pierre Améris qui adapte ici le roman autobiographique de Serge Chalandon. L'enfance d'un garçon, Émile, dans les années 60, qui vit à Lyon avec un père forcément héroïque, ceinture noire de judo, parachutiste, footballeur, espion et pourquoi pas conseiller du général de Gaulle, et dont le parrain serait un espion américain, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui doit venir en France pour rejoindre l'OAS et rendre l'Algérie à la France. Quant à la mère soumise, on la comprend, elle répète « Tu connais ton père ». Dans le film, c'est Benoît Poulvord qui est le père, c'est Audrey Dana qui est la mère. C'est le jeune Jules Lefebvre qui joue le petit Émile, qui est donc chargé de mission pour lutter contre l'indépendance de l'Algérie et même assassiner le général. C'est assez fidèle, je dois l'avouer, au livre de Chalandon. Qu'en pensez-vous, Nicolas?
J'avais pas lu le livre de Serge Chalandon. J'imagine à quel point cette histoire qui est très autobiographique, je trouve qu'il a attendu que son père ne soit plus de ce monde pour pouvoir l'écrire.
Absolument. Même.
À quel point cette histoire est à la fois terrible, émouvante et forte, mais alors je trouve que le film ne rend pas du tout justice à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, c'est vraiment il décrit vraiment une famille qui vit de manière complètement fermée, centrée autour de la folie du père, et un père qui est à la fois admiré par son fils, et ça c'est très beau, d'ailleurs le petit Jules Lefebvre vraiment très très bien, le regard qu'il a sur son père, et Poulvord qui est dans le Poulvord exubérant mais sans la dimension comique, là c'est comme s'il avait tout asséché mais en gardant cette espèce de folie, il hurle dans chaque scène, on peut comprendre comme ça qu'ils sont impressionnants, et on comprend le regard de cet enfant qui rêve avec toutes ces histoires qu'il invente complètement mythomane, et en même temps il y a quand même des scènes où il se fait frapper violemment à la ceinture, il y a quand même des scènes de violence terrible, et le problème c'est que tout ça est filmé au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de une fadeur dans la mise en scène, une espèce de candeur, alors peut-être que Améris a voulu faire mine d'adopter le regard de l'enfant, mais alors ça on ne le comprend pas vraiment parce que c'est filmé de manière et mis en scène de manière tellement assez plate, quoi, qu'il n'y a pas
je crois que, puisque j'ai lu le livre, vu le film et lu le livre, je crois que c'est fait partie des livres qui ne sont pas faits pour être adaptés. Je pense que c'est parfois le secret de la littérature et que c'est très difficile à rendre ce que tu viens de dire, Charlotte.
Effectivement, c'est très romanesque sur le papier et même si autobiographique pour l'auteur, c'est très fort. C'est-à-dire ce personnage du père est un personnage de fiction, quand bien même il aurait existé, extrêmement fort dans sa mythomanie, sa paranoïa et sa tyrannie, parce que c'est un tyran domestique. Et c'est vrai que tout le film et la mise en scène est uniquement centrée sur ce triangle de famille, ce triangle assez toxique, avec ce petit garçon au milieu qui effectivement est très très bon, Jules Lefebvre, qui est à la fois l'unique spectateur du spectacle de son père, et par son regard, il alimente presque la folie du père. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire, il lui donne un peu du grain à moudre, puisqu'il c'est son interlocuteur. Donc, ah bon, papa raconte encore. Donc, évidemment, le papa, quand son petit garçon lui demande de raconter encore, il continue et il va de plus en plus loin dans son délire. Et donc, cet enfant est l'essence presque, c'est au sens de carburant, de la folie du père jusqu'à ce que quand même sa crédulité soit un peu mise à mal, et avec au milieu la mère qui est jouée par Audrey Dana avec un rôle je trouve pas facile du tout. Très difficile parce que assez très antipathique pour nous spectateurs, parce que nous on voit bien la folie du père et elle ne la voit pas, une espèce de zone grise, elle est dans le déni, elle est aveuglée. Et en même temps, on se rend compte, plus le film avance, plus on se rend compte qu'elle n'est pas du tout dans le déni. Elle se rend bien compte de la folie et de la tyrannie de son époux, mais elle dit « c'est plus simple ». C'est-à-dire de laisser faire, par lâcheté. En ça, c'est terrible. Après, Benoît Poulvorde, effectivement, il a cette faconde et cette exubérance et cette violence qu'il dégage à l'écran qui nous donne quand même des frissons. Mais on étouffe quand même un peu, et je suis d'accord avec Nicolas, la mise en scène n'a pas beaucoup d'idées quand même à nous donner en plus.
Xavier ?
Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que la mise en scène, au contraire, elle n'est pas ostentatoire. Elle ne dépense pas en vain des millions inutiles qu'elle a eu à sa disposition. Ça, comme Kaamelott, hein, par exemple. Je dis ça n'importe quoi, le premier titre qui me passe.
On sent qu'il y a un peu moins d'argent dans Kaamelott.
Heureusement qu'il n'y a pas eu trop d'argent.
L'exiguïté de l'appartement lyonnais, assez sombre, le choix des peintures murales, le choix des portes, le choix des bruits, le choix du hors-champ, c'est quand même de la mise en scène aussi.
Oui. Désolé,
Nicolas.
Là où je te rejoins, c'est qu'on étouffe autant que le gamin.
Mais la question du hors-champ, elle est dès la première scène. Donc, excuse-moi, elle existe quand même. Et elle est constamment ramenée à l'écran à travers le montage, à travers des principes sonores que je trouve assez intéressants. C'est un gamin qui veut aimer son père malgré tout ce que son père lui fait endurer et fait endurer à sa mère. Donc dès qu'il y a un mensonge, et un mensonge extraordinaire, agent secret, résistant, enfin tout ça, nourrit les dessins qu'il va faire et nourrit sans doute aussi un tout petit peu le Jean-Pierre Améris enfant qui lui aussi a été victime, on l'a lu dans 2-3 interviews, d'un père un peu sévère, nourrit comme ça cette envie de s'évader et d'aimer quelqu'un qui ne fait rien pour être aimé, mais qui de temps en temps lui tend une petite main secourable que l'enfant a immédiatement envie de saisir. Et moi vraiment je trouve que ça me touche, ça me bouleverse. Subitement, l'enfant est lancé à l'extérieur pour une mission extraordinaire qui serait tuer le général.
Mais là, tu parles plus de l'histoire que de cinéma.
Parce que c'est pas incarné. Ce que tu racontes, c'est très bien,
mais
c'est pas du tout incarné
par
la mise en scène et par le dialogue. Quand tu vois comment est dirigée Audrey Dana dans le rôle de la mère, ou quand il se fait frapper.
Je suis désolé, la scène où elle est enfermée à l'extérieur de l'appartement parce qu'elle a osé sortir, je trouve qu'il y a principe de frontière à l'intérieur du cadre. Non, je vous trouve très sévère. C'est pas ostentatoire, c'est précis, c'est rigoureux, et je trouve que ce côté claquurant de la mise en scène correspond très bien au récit. Moi, j'y étais en tout cas extrêmement sensible. Et quand l'enfant sort à l'extérieur pour pouvoir justement faire des codes sur les murs, décider des choses, se lancer dans un immense jeu de piste, eh ben, je vous jure que c'est complètement dans l'esprit d'un regard que tu dis, c'est le regard de l'enfant, mais c'est une évidence. Tu voudrais peut-être que ce soit plus appuyé pour le comprendre mieux, mais moi, ça me suffit. Non, c'est fini.
Bizarrement, bien que ce soit une histoire autobiographique, on n'y croit pas une seconde. Mais ça n'est pas déplaisant du tout, là, cette espèce de huis clos dans un décor un peu et un filmage à la Amélie Poulain. Il a assez bien réussi à restituer ces frayeurs d'enfance et cette confiance aveugle qu'un gamin de 10, 11 ans fait à son père, quelles que soient les salades qu'il lui raconte. Et c'est un film pour Poulvorde, là, qui se révèle un mélange de Rému et de Louis Jouvet, un mythomane absolu, un fou furieux, parce que c'est pas tellement qu'il soit fou, c'est que le type est mythomane. Il peut pas s'empêcher de raconter des mensonges sur tout et n'importe quoi. Il y a les compagnons de la chanson à la télévision et il dit à son fils que c'est lui qui a créé le groupe. C'est quand même aberrant. Et
il martyrise quand même.
Le fait est, je trouve que ce qui manque un petit peu dans le film, c'est ce qui se passe autour. On a l'impression que personne n'existe, à part à un moment donné le petit copain pied noir qui déboule dans la classe. Et je ne sais pas ce que donnait le livre, mais il n'y a pas du tout le ton tragique qu'il doit y avoir dans cette histoire authentique, là, parce que là, on se dit c'est une bande dessinée.
Sauf que dans le livre, c'est
oui,
une...
Oui, oui.
Il n'y a pas l'imaginaire de la bande dessinée, ni la force du drame, quoi. C'est ça, c'est qu'on est dans une...
Non, mais quand même, à t'entendre, Eric, on pourrait croire que c'est un peu léger et drôle. Il faut dire aux spectateurs que
c'est justement ce que, pour répondre à la question d'Eric, le livre montrait une tragédie, mais c'était écrit avec une forme de légèreté qui est celle de Chalandon.
Oui, elle est plutôt là, la légèreté, je trouve.
On sent qu'il veut faire familial, alors que, justement, et du coup, il aplatit tout, quoi.
Je crois pas, Nicolas, là, c'est un procès d'intention.
Ah si, on sent qu'il y a une envie de faire un film, je vais pas dire confortable, mais en tout cas, dans sa mise en scène, suffisamment posée.
Mais l'affiche est trompeuse. L'affiche du film laisse penser à une comédie.
On sent bien l'atmosphère de ce début des années 60 avec les informations, la guerre d'Algérie.
Oui, le film est vieux.
Oui, mais c'est rare, ça aussi.
Profession du père, c'est donc Jean-Pierre Améris, La loi de Téhéran, un thriller, un vrai, de l'Iranien Saïd Roustaï, qui a reçu, et à juste titre, une standing ovation au dernier festival de Venise. Dès la scène d'ouverture, c'est une descente musclée de la police de Téhéran dans une cage de dealers. On sait ce qu'on va voir, la traque d'un parrain de la drogue, qui s'appelle dans le film Nasser Kazad, qui est joué par Navid Mohamed Zadeh, traque menée par un flic aux méthodes brutales, Samad, qui est joué par Peyman Mahdi. Et ça se passe dans un pays, je le rappelle, et c'est bien dit dans le dossier de presse, où la vente de crack a explosé, où la plus petite possession de drogue est punie de la peine de mort par pendaison. Il y aurait 6,5 millions de toxicos en Iran. C'est le deuxième film après Life and the Dead de Saïd Roustaï, et c'est un choc. C'est d'ailleurs un gros succès de cinéma en Iran, où on apprend donc dans ce film toutes les méthodes que trouvent les trafiquants pour qui ont toujours en fait une longueur d'avance sur les flics. Ils vont jusqu'à utiliser des catapultes ou creuser des tunnels pour faire passer leurs marchandises. Xavier, je crois que tu as le même coup de cœur que moi, puisque tu m'as même conseillé de le voir avant que je le découvre.
Quand j'ai vu le film, c'était une projection de presse unique, et en sortant, je me demandais pourquoi le distributeur y croyait si peu. Il y a eu d'autres cartons, il y a eu d'autres choses, ils ont très bien fait leur travail, mais la première fois, on avait l'impression qu'ils s'excusaient de sortir ce film, qui est pour moi le meilleur de l'été et un des meilleurs de l'année. Ça m'a mais estomaqué. Je trouve ça mais d'abord stupéfiant, très mauvais genou, nous sommes d'accord, mais de maîtrise scénaristique et de maîtrise de mise en scène. C'est-à-dire que chaque idée de scénario, et autant vous dire que le scénario, il ne connaît aucun temps mort, aucune rupture de rythme, repose également...
Alors qu'il dure 2h15.
Il dure 2h15, qu'on ne voit pas passer. Et aussi la possibilité pour la mise en scène d'installer des décors, des ambiances, des moments anxiogènes extraordinaires. La poursuite au tout début du film qui s'achève sur une note à la fois ironique et terriblement tragique, mais qui donne déjà des indices sur la suite. Parce qu'en plus, il n'y a rien d'inutile. C'est vraiment au gras. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de gras, justement. On a épuré, c'est au scalpel, ce scénario. Il y a des idées de réalisation, de mise en scène, encore une fois, qui sont extraordinaires. À un moment, on arrête. Donc, un des parents, on le met dans une cellule. Et la cellule, dès que la porte s'ouvre, on voit arriver 10, 20, 30 prisonniers qui constamment repoussent comme ça ce prisonnier, qui est celui quand même qui nous intéresse, dont l'histoire nous est racontée. Donc, au fond de la cellule, où il est en train, justement, de créer encore un jeu de pouvoir, de manipulation, autant vous dire que il n'y a pas de trucs inutiles dans ce film. C'est constamment remarquablement écrit, remarquablement mis en scène et remarquablement interprété, jusqu'à la scène finale qu'on ne racontera pas et qui, moi, m'a coupé le souffle, quoi, que j'ai trouvé, mais juste magistral à l'image du film.
Eric.
Entièrement d'accord. C'est vraiment le film de l'été, sinon de l'année. Ça, c'est un truc qui sait tout faire, ce réalisateur. La première séquence vous embarque tout de suite. Par la suite, on se retrouve dans une cellule bondée, comme la cabine de bateau des Marx Brothers. Mais on voit comment ça se passe dans un commissariat ou une prison à Téhéran. C'est hallucinant, tout ce qu'il y a. On voit aussi que la rivalité entre les flics, la corruption règne pratiquement à tous les niveaux. Il a plein d'inventions. On arrête à l'aéroport trois obèses qui planquent de la drogue dans leur intestin. Il y a un père infirme qui est une ordure totale, qui se sert de son fils pour trafiquer sa cam. L'ordure présumée se révèle plus ambigu que prévu. Il y a une descente dans un bidonville où échouent les drogués dans des espèces de,
C'est pas un bidonville, ce sont
des chantiers, des silos de chantier.
On se dit, mais il y a tout ça à Téhéran. La séquence finale, c'est un truc de pur cinéma. Et non, c'est étonnant. Tu es sûr que c'est sorti en Iran, le film?
Non seulement il est sorti en Iran, mais il remporte
parce que d'habitude, ce genre de film.
Oui, mais si tu veux, objectivement, c'est un. Ça ne dessert pas le pouvoir,
non, hein, parce non, que c'est mais quand, enfin, même ça, la manière quand même une
dont
image.
La police essaye de réprimer les trafiquants. Ouais. Donc, et ça, c'est un des plus gros succès populaires en Iran du cinéma contemporain.
Aussi en France, parce que d'habitude, ce genre de films, les mollahs nous les envoient à l'international et ça ne sort pas là-bas.
Au cœur de l'été,
et je pense qu'on devrait faire ça plus souvent avec le cinéma français. Comme
mais je pense que Le Masque et la Plume du 8 août va beaucoup faire en faveur de la loi de Téhéran. Charlotte.
Bah oui, je rejoins mes camarades, évidemment, le film est assez incroyable. Souvent, je trouve que les grands polars disent beaucoup de la société, du contexte dans lequel ils s'inscrivent.
C'est le cas, là.
Mais c'est ce que, ouais, c'est exactement ce que je vais dire. Et là, c'est plus que le cas. C'est-à-dire qu'à travers le démantèlement de ce trafic de drogue, tout nous est donné à ressentir et à voir de la société iranienne actuelle, en tout cas urbaine. La pauvreté, la corruption, la débrouille, le système D, comment s'organise le trafic de drogue. Toute la première partie, en gros une petite heure, on est du point de vue, c'est la traque, donc on est du point de vue du flic, plutôt qui va peu à peu monter les échelons pour arriver au baron de la drogue, on va dire. Et dans cette deuxième moitié, on bascule sur un autre point de vue qui est plutôt celui du dealer. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi une équité de traitement sur ces deux personnalités. Et moi, je ne l'ai pas vu venir, mais la façon dont on va découvrir ce gros poisson, on va dire, arrêté, qui effectivement veut offrir un meilleur avenir à sa famille, et tout ça, c'est-à-dire on comprend aussi pourquoi il s'est lancé là-dedans, et avec tout d'un coup une scène qui est carrément une bulle de poésie, tout d'un coup avec un petit garçon au parloir qui vient rendre visite à son oncle, et je laisse au spectateur le plaisir de découvrir ce qu'il fait. Il fait une démonstration de ce qu'il a appris à son oncle, et c'est mais magnifique, ça vous serre le cœur. Donc c'est vraiment un grand film. Après l'interprétation, ils sont tous absolument excellents. Et le titre original du film, c'est 6 et demi, puisqu'effectivement film se clôt avec cette indication qu'il y a quelques années, il n'y avait que 1 million de toxicomanes en Iran et qu'aujourd'hui, ils en sont malheureusement à 6,5 millions, d'où ce titre
toujours
original.
Dans le dossier de presse, nous avons plusieurs centaines de kilomètres de frontières communes avec le plus grand producteur de drogue du monde, qu'est l'Afghanistan. Cette production a augmenté de façon exponentielle lors des 3 dernières décennies. Et voilà, donc c'est quand même, effectivement, on apprend beaucoup de choses. Nicolas, tu vas pas en dire, si tu en dis du mal, tu te tais, si tu en dis du bien, tu peux parler.
Mais je dis ce que je veux.
Non.
Je vous rejoins, malheureusement, je vous rejoins. Malheureusement.
Parce... C'est nous qui sommes désolés.
Est-ce que c'est aussi bien que Kaamelott?
Voilà, mon sens du dialogue.
Aussi moi,
mais c'est vraiment un film assez incroyable. Et moi, ce qu'on voit vraiment intéressant aussi, que j'aimerais un peu préciser, c'est que il y a une accroche de, souvent, ils aiment bien les phrases d'accroche, les distributeurs pour donner envie. Et là, c'est William Friedkin qui a fait la phrase d'accroche, qui dit qu'il adore le film. William Friedkin, réalisateur de French Connection, entre autres, ou de Police Fédérale Los Angeles. Et je retrouve dans ce film, effectivement, toute la force qu'il pouvait y avoir chez Friedkin, moins la perversité, mais vraiment la force, à la fois documentaire sur une quête autodestructrice et absurde, parce qu'on arrive au final, cette quête, elle est absurde. Mais on comprend comment ces personnages se... j'ai juste dit qu'ils se battaient...
Tu me fais peur.
Voilà, qu'ils se battaient vraiment pour, finalement, pas grand-chose. Et la force du cinéma de Friedkin, c'est comme ça d'arriver à faire rentrer un aspect des vérités documentaires et comment ça se passe dans les prisons, comment ça se passe dans quand on va faire une descente chez la famille du prétendu dealer et qu'en fait les femmes sont là, lui n'est pas là, et comment la tension monte, une espèce de tension parce qu'il y a il faut protéger les enfants en même temps. Enfin, on va pas en dire plus. Et il y a aussi cette idée aussi, comme chez Friedkin, de passage de relais d'un personnage à l'autre. Chez Friedkin, souvent c'est par le mal, c'est un mal qui s'insinue de l'un à l'autre. Là, c'est une question de survie. C'est-à-dire, d'abord, on est auprès du flic qui a besoin de démanteler ce réseau parce que il est lui-même impliqué et qu'il a besoin d'un peu de se dédouaner. Et après, quand on arrive il finit par trouver ce gros dealer, on est sur lui parce que lui, il a besoin maintenant de sortir de prison. Et c'est ce truc de survie dans une société complètement folle, ce passage de flambeau et je trouve passionnant et donne une vue panoramique de la situation qui est dingue. Donc c'est vraiment un grand, grand polar. Oui.
Allez voir La Loi de Téhéran, c'est un conseil, peut-être même un ordre, du masque et de la plume, signé de l'Iranien Saïd Roustayi. Allez, on accélère un peu. 6 ans après un pigeon perché sur une branche, philosophé sur l'existence, le Suédois Roy Andersson signe Pour l'éternité avec Martin Stenner, Tatiana Delaunay, Anders Elström, un film onirique, kaléidoscopique, sur la vie humaine, tourné vraiment en studio avec un incruste numérique et beaucoup de trompe-l'œil, et qui a toujours à Venise reçu le prix de la mise en scène et s'y succède dans un désordre que je ne vais pas évidemment démêler. Un dentiste, un père et sa fille sous la pluie, un musicien amputé qui joue au soleil mio, à la mandoline dans le métro, un homme dans un bus qui pleure en disant « je ne sais plus ce que je veux », Hitler entouré de généraux ivres morts dans son bunker, un condamné à mort attendant d'être fusillé, et surtout pour moi peut-être l'image la plus propre à ce film, qui est un couple qui survole la ville dans un tableau très chagallien, Chagall à qui on pense avec Pour l'éternité, qui est toujours dans les teintes beige et gris, avec l'absurde qu'il faut et aussi la sinistrose qu'il faut. Je crois que Nicolas ne l'a pas vu, donc il ne pourra en dire ni du bien ni du mal. Charlotte,
bon, c'est évidemment une sorte d'ovni pas particulier. En fait, le film est tellement sinistre, gris, immobile, qu'il en devient assez drôle. C'est-à-dire que c'est un humour à froid, c'est une telle sinistrose que sur certaines séquences, voilà, il y a un humour qui se dégage de cette situation improbable. Et moi, j'avais l'impression, je trouvais ça assez beau, de voir des photos qui parlent. C'est-à-dire que ils sont tous immobiles quasiment dans le cadre. C'est des plans séquences et des plans fixes pour 90%. Et tout d'un coup, la photo parle. Alors parle, attention, hein, c'est pas bavard non plus. Il y a que deux trois petites phrases qui se disent. Et il arrive à saisir des petits moments de l'intimité des gens de manière incroyable. Et il y a aussi dans cet inventaire qui pourrait être un peu à la Prévert, un prêtre qui a perdu la foi et qui va donc chez un médecin ou un psy pour essayer de la retrouver, et il fait des cauchemars qui sont aussi illustrés à l'écran, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Voilà, après c'est un trip, hein, quand même, enfin faut prévenir les auditeurs,
c'est très particulier
et ça a beau être très court, je crois que ça fait 1h15, 1h20, il faut se préparer quand
et
même
puis une sorte de... accepter le principe du film à sketch aussi.
Voilà, du film à sketch, de la contemplation et de la sinistrose.
Eric.
Ah bah, c'est vraiment un truc étonnant. Il a inventé quelque chose, cet Andersson. C'est comme Modiano en littérature. Il a son univers, c'est spécial. C'est quand même un truc très étonnant. Tu parlais de Chagall pour la séquence qu'on voit plusieurs fois du couple qui se
rencontre.
Mais on pense surtout à du Edward Hopper, beaucoup plus neurasthénique, parce qu'il y a une lumière d'hôpital sinon de mort. Toutes les chairs sont blafardes.
Les jaunes et les beiges sont assez
vivants. Et c'est très intemporel.
C'est complètement intemporel. On ne peut même pas savoir où ça se passe. Une vérité est dite. Il y a un moment, un couple sur un banc, et le mari dit, on est déjà en septembre. Et ça s'arrête là. Et tout est comme ça, comme des notes d'Eric Satie ou des gouttes qui tombent dans une flaque. Et il arrive à mélanger les petites histoires quotidiennes, comme un serveur au restaurant qui verse dans un verre la bouteille jusqu'à ce qu'elle inonde la nappe blanche. C'est très très beau visuellement, très désespérant, mais presque drôle, tellement il a une vision pessimiste de l'humanité. Et il mêle aussi avec des détails historiques. On voit à un moment donné une colonne d'hommes dans la neige surveillée par des soldats en armes.
Ou Hitler.
La séquence d'Hitler qui déboule dans son bunker bombardé avec ses officiers qui sont tellement bourrés qu'ils n'arrivent même pas à lever le bras pour faire le salut nazi. Mais ça n'insiste jamais. Et le type, on le connaît depuis un petit moment, il creuse son sillon.
Qui fait très peu de films. Hein,
ah ouais,
5 ou 6 en...
Sioran, à côté, il aurait écrit le scénario d'OSS. Hein, c'est vraiment... vous y allez pas avec votre...
Avec des touches parfois à la santé aussi.
Oui, aussi. Ouais, n'y allez pas avec votre ami qui est sous antidépresseur. Parce que sinon, vous allez être accusé d'homicide volontaire.
Ou alors, il faut y aller entre Kaamelott et OSS 117. Xavier.
Je vous entends, je vous écoute. Je suis tout à fait friand de vos références brillantes, intelligentes, pertinentes.
Pas d'insultes.
À la grande question, est-ce que ça fait un film, cet assemblage de gommettes, parce qu'il faut quand même un petit peu appeler les choses telles qu'elles sont. Certaines histoires se répercutent. On a très vite compris quand même que c'est le spleen du quotidien, la solitude, l'humiliation, et on repart le spleen, la solitude, l'humiliation. Moi, il y a un moment où je trouve ça très beau. mais dans lequel je n'ai pas de place en tant que spectateur.
Ça pourrait être une installation dans un musée d'art contemporain.
Mais voilà.
Ça durerait 24 heures.
Absolument.
On passerait devant.
Et il y a un moment.
Et on en choperait des bribes.
Il
n'y
a pas beaucoup
de
dialogue. On a quand même oublié de parler de la voix off qui est un peu insistante, voire un peu pléonasmique. C'est-à-dire qu'il y a une femme dans une salle d'attente et je vois une femme qui a des problèmes d'escarpins. Et elle se lève, effectivement, elle a un problème d'escarpins. Bon, elle finit par les enlever et à quitter le champ. Tout ça est quand même parfois un tout petit peu au premier degré, très beau, mais à la question, ça ne fait pas un film. Enfin, est-ce que ça fait un film? Moi, je trouve que non.
C'est pour l'éternité de Roy Anderson, et malheureusement, vous allez être très malheureux une poignée de minutes pour évoquer Fukada sous ce titre de l'été Fukada. Cinq films de ce cinéaste japonais, jeune d'ailleurs encore, Koji Fukada, que parfois on surnomme le Romère Nippon, sont proposés en salle. Il y a Hospitalité depuis le 26 mai, il y a Au revoir l'été qui est en salle depuis le 9 juin, L'infirmière depuis le 30 juin, Sayonara depuis le 14 juillet, et celui donc qu'on va évoquer trop vite ce soir, c'est Le soupir des vagues, sorti le 4 août. Sachiko, une jeune japonaise orpheline de père, rejoint sa tante qui vit à Sumatra, qui a été ravagée par le tsunami 10 ans plus tôt. Et là, elle veut disperser les cendres de son père. Elle découvre une famille qu'elle ne connaissait pas. Elle apprend surtout qu'un homme mystérieux, comme rejeté par les vagues, a été retrouvé vivant sur la plage et qu'il aurait, comme Xavier, des pouvoirs spéciaux qui feraient même des miracles. Film bref, 1h29. Malheureusement, vous me dites vite ce que vous en pensez, Nicolas.
Une plaisante perplexité, c'est-à-dire que c'est vraiment un film étrange. Je pense que je suis peut-être pas assez shintoïste ou bouddhiste pour l'apprécier comme il se doit.
Oui.
C'est très beau, c'est très joli. Il y a vraiment un sens du cadre. Et moi, Fukada, j'avais vu un ou deux films, mais je connais pas très très bien. Et là, il y a quelque chose d'assez balnéaire, estival, mais en même temps avec un sujet fort, parce que c'est quand même le deuil des victimes du tsunami. Mais avec ce personnage qui finit par devenir, par être christique et qui d'abord guérit, puis finit par tuer des gens et qui repart en marchant sur l'eau. Et au milieu de ça, des histoires d'amour entre quatre jeunes personnages. J'ai pas très bien compris ce que j'ai vu.
Est-ce que tu le décris de manière réaliste, je trouve? Il y a une poésie qui...
Voilà, une poésie comme ça,
qui est belle, je trouve.
Oui, mais qui est presque impalpable. Mais j'arrive pas trop bien à me comprendre ce que le film me raconte. Mais c'est très plaisant. C'est comme un dépliant touristique.
Assez nippon, en fait.
Mais je suis un peu comme Nicolas, peut-être que je suis trop cartésienne ou rationnelle pour vraiment me laisser embarquer dans ce film, que par ailleurs je trouve effectivement très sensible, intimiste, modeste, mais dans le bon sens du terme. Et je trouve assez jolie la manière dont il y a des bulles de surnaturel qui surgissent dans un environnement extrêmement réaliste. Donc on s'y attend pas et on peut se laisser porter par ça. Mais malgré tout, je me suis quand même un peu joliment ennuyée, on va dire.
Xavier.
C'est un cinéaste qui m'intéresse énormément. La première fois que je l'ai vu deux fois, déconcerté comme vous, passionné par plein de choses, mais j'avais peut-être du mal à rassembler les éléments. Et quand je l'ai vu la deuxième fois, c'est assez limpide, en fait, comme l'eau qui est l'élément central de cette histoire et qui est à la fois nourricière et meurtrière, hein, et c'est le principe du tsunami. On est en Indonésie. Le Japon tremble tous les jours, effectivement, des tsunamis. C'est-à-dire une eau qui est à la fois l'origine de la vie, mais aussi destructrice. Et je trouve que c'est une métaphore sur les religions, les croyances et les cultes, les cultures, qui est assez brillamment utilisé justement dans un film très romérien, à juste titre. C'est un cinéaste que Fukada adore et qu'il vénère et dont il a gardé le sens très précis du montage. Je trouve que c'est un film plein de mystères, mais au très bon sens du terme. Il dit à la fin, par rapport à l'image, que je ne commenterai pas, sur lesquelles se clôt le film, on pense à Jésus-Christ, mais on pense dès le départ, puisque l'histoire commence le 26 décembre, c'est-à-dire au lendemain de la naissance du Christ. Donc il y a aussi cette utilisation des grandes religions monothéistes. C'est un film intelligent, mais qui ne le montre jamais au profit d'une œuvre très sensible, très sensuelle et très intelligente.
Et contrairement à Roy Anderson, Fukada, qui est encore une fois jeune, tourne beaucoup, lui. Eric.
Mais effectivement, on ne comprend pas tout, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Tu as raison, le terme qui vient à l'esprit, c'est poésie. On se laisse porter par ce truc-là. C'est très beau visuellement. Il y a des images, par moments, elle roule en taxi à côté d'un immense navire sur la terre ferme. C'est une centrale, un bateau central qu'on a laissé là, après le tsunami. Il y a ce côté magique qu'a le personnage qui a échoué sur la mer, qui réalise des petits miracles à sa façon. Et puis un film où on rappelle l'existence de l'écrivain Soseki qui disait « La lune est belle », pour lui, c'était un mot de passe pour dire « Je t'aime ». Et ça résume un peu l'ambiance du film.
Ça marche plus trop.
Il s'agit donc du film, et même de l'été Fukada, mais là en l'occurrence du film Le Soupir des Vagues. Allez, le temps est venu des conseils de ce début du mois d'août. On va commencer avec Charlotte.
On peut aller au cinéma dehors, en plein air. Il y a en ce moment beaucoup de points à Paris, j'imagine beaucoup en province aussi, mais là il y a ceux de la capitale, où on peut voir plein de films allongés dans des transats, pique-niquer en famille. C'est toujours des jolies sorties à faire. Évidemment à la Villette jusqu'à la fin du mois à 22h30, avec cette année comme thème des films inspirés de personnalités historiques. Alors ça va de Ali ou Amadeus à Marie-Antoinette. Mais il y a aussi Gare au Doc à la Recyclerie dans le 18e, c'est sur les rails de la Petite Ceinture, avec des films de documentaires de fiction sur le climat, la nature, l'écologie. Et puis pour des films d'auteur, c'est sur les toits du Moulin Rouge avec la programmation Cinéma sur le Toit avec la revue Sofilm. C'est tous les mercredis soirs. Mercredi prochain, on peut voir ou revoir La vie au ranch de Sophie Le Tourneur. Et la semaine d'après, c'est Le plein de super d'Alain Cavalier, un film qu'on voit très rarement. Donc là, sur le toit du Moulin Rouge, ça sera merveilleux.
Le conseil.
Ah, et tout est gratuit.
C'est quand même important.
Oui, j'ai oublié. Tout est gratuit.
Le conseil de Nicolas.
Alors Carlotta, dont on parle plus trop puisque on a beaucoup parlé pendant le confinement, notamment pour les sorties de Blu-ray qui ont vraiment une activité formidable, ressortent un des plus beaux films sur l'enfance qui est L'Incompris de Comencini de 66. Ils le ressortent, la restauré, je crois, la première fois en Blu-ray. Donc il faut, voilà, et c'est si vous l'avez pas vu, alors faut être accroché en même temps. J'allais dire les plus beaux films sur l'enfance face à la mort. On en ressort quand ils sont réussis, on en ressort rasséréné avec une croyance. Et d'ailleurs, je voulais aussi conseiller au passage sur un sujet assez proche. Vous en avez parlé au moment du confinement, vous avez dit beaucoup de bêtises, je trouve. C'était sur Lorenzo de George Miller.
Comment ça, on a dit beaucoup de bêtises?
Ça avait été très violent.
Quel droit?
Je m'excuse. Charlotte avait été là. Lorenzo. Non, mais Lorenzo, voilà, c'est un sujet très fort de George Miller qui était vraiment un très beau film qui était sorti chez Elephant. Et voilà, si vous faites ces deux des plus beaux films sur l'enfance,
il faut préparer des Kleenex.
Mais elle est quand même en salle.
Jamais autant pleuré.
Mon conseil, c'est pas du grand cinéma, mais ce sont des grands sentiments. Je veux parler d'un film qui est sorti le 4 août, la semaine dernière, qui est Dream Horse de Eros Lyn, et qui raconte l'histoire vraie, totalement vraie, de cette Galloise modeste qui est très bien jouée par Tony Collette, dont la vie n'est pas vraiment rose, et qui tombe amoureuse d'un cheval et qui réussit la prouesse de fonder ce qu'ils appellent un syndicat ouvrier pour acheter et entraîner ce cheval de course qui va devenir un crack et rapporter gros. C'est un mix pour moi de The Full Monty et de Pur Sang, la légende de Seabiscuit. Tu l'as vu aussi, Xavier?
Oui, c'est tout à fait charmant et je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est pas du Romer.
Non, c'est pas du Romer, mais c'est du vrai film good movie comme on l'aime.
L'histoire est
puis c'est prolétaire, et puis c'est un village qui se redresse, c'est des gens qui croient en leur avenir. Et il y a Damien Lewis qu'on aime également beaucoup, qu'on a longtemps vu dans Homeland, par exemple, la série télévisée, et qui est assez formidable aussi.
Et c'est très juste sur les chevaux. Eric.
Encore Carlotta, dont ça n'est pas l'habitude, qui publie le livre de Sam Wasson, The Big Goodbye, dont la première phrase est « Sharon Tate ressemblait à la Californie ». Et le bouquin raconte tous les tourments qu'il y a eu pour réaliser Chinatown. Et le tournage, les détails sont hallucinants. Faye Dunaway était tellement diva qu'elle refusait de tirer elle-même la chasse dans sa caravane. Nicholson était toujours en retard sur le plateau parce qu'il regardait les matchs des Lakers, qui est son équipe favorite. Et Polanski a été obligé d'attraper le téléviseur et de le jeter contre un mur. Et tous ces détails triviaux, ça donne un chef-d'œuvre qui s'appelle Chinatown.
Et enfin, Xavier.
Moi, je recommande un film qui s'appelle Nadia Butterfly, du Québécois Pascal Plante, qui aurait dû être l'année dernière sélectionné en sélection officielle au Festival de Cannes. Malheureusement, le festival n'a pas eu lieu, mais il a l'estampille. Et qui est l'histoire d'une jeune nageuse olympique qui va raccrocher. C'est-à-dire, elle rêve d'une dernière victoire et au terme de laquelle elle va enfin pouvoir prendre, entre guillemets, sa retraite. Mais c'est surtout la solitude et les souffrances qu'ont occasionné cette vie, effectivement, de nageuse professionnelle. Et c'est remarquablement écrit, remarquablement mis en scène, vraiment sur la solitude, sur la violence, sur la pression qu'elle subit, et c'est remarquablement interprété. Donc vraiment, allez-y, ça sort un peu dans l'été, comme ça au hasard, mais Nadia Butterfly de Pascal Plante, c'est un deuxième film, est tout à fait recommandable.
Tous ces conseils, bien sûr, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Nicolas Chalère malgré tout, Xavier Le Herpeur et Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir à la technique au Théâtre de l'Alliance Française, il y avait Et je les remercie, Benjamin Vignal et Antoine Espel. La réalisation était signée de Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu enfin en public le jeudi 19 août. Je vous attends très nombreux au Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma, et ça sera, je ne l'ai pas précisé, à 18h. Voilà, dans une semaine, on parle de littérature. À dimanche prochain, sur France Inter, évidemment.